évangile, dans sa brièveté, nous invite à regarder Jésus simplement, à nous remettre devant le Christ, devant sa vie, devant sa personne elle-même. Et la première lecture nous rappelle ce que le Christ a vécu essentiellement sur cette terre, une offrande de lui-même jusqu'à la croix. Cette offrande, il l'a vécue du début jusqu'à la fin. Elle a trouvé sa perfection dans la crucifixion, mais Jésus a vécu en état d'immolation dès le commencement. Et en pensant que la vie du Christ a été une vie d'offrande, eh bien nous nous rappelons notre propre vocation comme baptisés. Qu'est-ce qui restera de notre vie? L'offrande de nous-mêmes. Qu'est-ce qui mesurera la beauté, la fécondité, la richesse, la grandeur de notre vie, la profondeur de cette offrande? Il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer comme Jésus a aimé, c'est-à-dire en donnant sa vie, en déposant, littéralement en grec, en déposant son âme, en se livrant pour ceux qu'on aime. Alors nous nous reposons la question, mais comment faire de notre vie une offrande? Ici, juste avant la messe, je repensais à une expression de Marthe Robin qui parle d'une immolation silencieuse de son âme. Au fond, si nous pouvions vivre tout le temps dans une immolation silencieuse de notre âme. Tout souffrir en silence par amour pour Jésus, disait Bernadette. Quand je dis ça, je ne dis pas quelque chose, un poids à rajouter aux épreuves de la vie, mais plutôt, comme dirait Marthe, des ailes pour voler. Quelque chose qui donne de la joie intime, et une force aussi, une force divine, celle de l'amour le plus grand. La charité supporte tout, endure tout, espère, croit tout, espère tout. Alors demandons à Jésus de nous éclairer, comment nous conformer à lui dans le mystère de sa passion et de sa résurrection quotidiennement. Qu'est-ce que nous dit l'Épître aux Hébreux? Le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ici, il nous est précisé quelque chose de très précieux, c'est que Jésus s'est offert lui-même à son Père, poussé par l'Esprit Saint. C'est le seul passage de l'Écriture où cela soit dit explicitement. Mais si on regarde les choses du point de vue théologique, ça apparaît en réalité comme une évidence. Jésus a toujours été animé par l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit Saint qui l'unit à son Père et que sa vie est tout entière une vie d'union, de communion avec le Père dans l'Esprit Saint. Oui, mais ça nous dit quelque chose d'essentiel. C'est que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire de notre vie un grand don de soi sans l'Esprit Saint. Nous sommes absolument dépendants de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie d'amour. Il ne suffit pas de vouloir se donner sa vie pour les autres, il ne suffit pas de vouloir se sacrifier pour les autres. Il ne suffit pas d'être généreux, il faut l'Esprit Saint. Il Frère et sœurs, si j'avais compris ça étant jeune prêtre, j'aurais évité bien des faux sacrifices, bien des générosités excessives, trop humaines. Non, il faut se convaincre, se remettre devant cette vérité-là. Nous ne pouvons pas aimer d'un amour véritable, dans un don désintéressé de nous-mêmes, sans l'esprit d'amour, la personne d'amour, comme aimait dire Jean-Paul II, qui est l'Esprit Saint. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on gémit, on appelle, on implore l'Esprit Saint, on reste conscient de notre incapacité à poser un acte d'amour pur. Ça, c'est la première chose. Dieu donne sa grâce aux humbles. On ne confond pas nos grands élans, nos belles aspirations, nos belles pensées avec l'amour lui-même. Ça, c'est déjà un grand pas. Et on continue à contempler Jésus pour qu'il nous ouvre le chemin. Et ici, je vous rappelle que l'Épître aux Hébreux nous indique, nous donne une autre indication précieuse. Dans un autre passage, il est dit que le Christ, tout fils qu'il était, a pris par ses souffrances l'obéissance. Autrement dit, Jésus nous a aimés de l'amour le plus grand, poussé par l'Esprit Saint, sur fond de la souffrance, sur fond de la grande épreuve. Donc, frères et sœurs, pour aimer d'un amour qui soit sauveur, d'un amour qui donne à notre vie une vraie fécondité, nous avons besoin de deux choses, l'Esprit Saint et les épreuves. Je me disais avant la messe, pour faire un feu, il faut une allumette, une torche. Le feu de l'amour, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de feu. Et il faut du bois aussi. Le bois, c'est les épreuves, la souffrance. Il faut une matière pour que ça brûle. Alors la matière, c'est notre vie concrète. Ça fait des mois que je médite le récit poignant qu'a fait un psychiatre juif, Viktor Frankl, de ses 3 ans de vie dans les camps de concentration. Et il dit, parce qu'il n'a pas la lumière de la foi chrétienne, mais il communie à la passion de Jésus sans le savoir. Mais il a reçu manifestement des lumières de Dieu très, 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 très profondes dans son immense détresse. Et il dit, que la souffrance lui est apparue un moment comme une tâche. Comme la première tâche qu'il avait à accomplir. Il remarque juste avant que la plupart des hommes cherchent le bonheur dans la réalisation d'une œuvre ou dans une expérience de quelque chose de beau, comme peut-être dans l'expérience du mariage, où on jouit de la bien-aimée, du bien-aimé. Mais il propose une troisième voie pour trouver le bonheur. Et d'une manière stupéfiante, il propose la souffrance. La souffrance comme terrain, comme expérience, permettant à l'homme de se dépasser. Écrit par un juif, ça transperce le cœur. Parce que combien de chrétiens oseraient dire ça? Mon travail, c'est d'être digne de ma souffrance. C'est l'expression qu'il reprend à Dostoïevski. Est-ce que je suis digne de ma souffrance? Les souffrances de ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les laisse se perdre dans la révolte, dans le découragement, en les vivant comme un obstacle à la réalisation de moi-même? Ou est-ce que je les vis comme un tremplin, comme une matière, comme une occasion? C'est aussi simple que pénétrant. Et il dit que, il parle au nom de plusieurs autres aussi, il dit « Quand nous avions compris la révélation du sens de la richesse que renfermait la souffrance, nous ne quittions plus cette tâche qui nous était assignée. Elle était devenue notre premier travail. » Alors ici, c'est plein de sagesse. Parce que vous voyez, on peut passer sa vie à poursuivre un idéal de don de soi. Passer sa vie à vouloir réaliser quelque chose pour les autres de grand, en se donnant soi-même dans des grandes choses, en se dévouant totalement pour une tâche qu'on veut réaliser. Et on oublie la première tâche, qui sont les tâches que la vie nous impose. La croix, il ne faut pas la chercher ailleurs que dans ce que la vie nous impose. Il n'y a pas que les grandes souffrances, il y a toutes les contradictions de la vie, petites ou grandes, tout ce que nous avons à faire ou à supporter malgré nous. Et notre premier travail, c'est d'en profiter. De savoir en profiter dans la lumière de la croix. Les Juifs ont su en profiter et nous ne saurions pas en profiter. Prions la vénérable Marthe Robin de nous aider à rentrer dans cette sagesse de la croix qui n'est apparemment pas réservée aux chrétiens, mais qui peut être communiquée par l'Esprit Saint à des hommes justes, droits, qui se laissent éclairer et modeler par Dieu à travers les épreuves de la vie. Nous avons un lieu de recentrement sur cette tâche première, qui est la croix dans notre vie, qui est l'Eucharistie. Nous célébrons ce mystère de la passion de Jésus et nous laissons le Seigneur nous prendre dans son offrande et nous communiquer la force de son esprit dans notre participation à la prière eucharistique, au sacrifice eucharistique et dans notre communion eucharistique. Que le Seigneur nous donne de vivre maintenant ce sacrifice et cette communion eucharistique avec un grand désir de faire de notre vie de nous-mêmes une hostie vivante, sainte et agréable à Dieu.